On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. On est avec Florian Chekroun aux Terrasses de la Borie, un lieu qui est magnifique, qui a déjà une histoire, qui a déjà un passé, mais qui a été totalement refait et qui a réouvert donc cet été. Alors Florian Chekroun, vous allez nous parler d'une recette toute personnelle.
Alors on va parler du bœuf de Salers avec Cantal et Girolles. Donc c'est une recette qui m'a été inspirée par ma grand-mère qui est malheureusement décédée très récemment. Et c'était un peu pour lui rendre hommage. Donc ma grand-mère était originaire du Cantal. Et c'est vrai que les marqueurs qu'on a dans ce plat, que ce soit la girolle, le cantal ou la viande, c'est des produits que j'avais l'habitude de manger chez elle, qu'on a retravaillé un peu différemment. Donc on cuit le bœuf rôti à la poêle, les girolles sont juste sautées, quasiment encore croquantes. Côté de ça, on fait une petite girolle qu'on dessine un petit chemin sinueux dans l'assiette pour se rappeler des virages qu'on avait pour se rendre jusqu'à chez elle. Et ensuite, à côté, on fait un rouleau de pommes de terre. Donc une pomme de terre qu'on passe à une machine un peu spéciale qui s'appelle une dérouleuse, qu'on vient rouler, frire, et à l'intérieur, on fait un siphon un peu dans l'esprit d'une aligot revisitée au Cantal, en fait. Un siphon bien bien aérien et avec un jus de bœuf qu'on fait fumer au foin. Puisque le foin, vient un peu compléter ce côté terroir, ce côté l'habitude, les foins qu'on avait l'été quand on allait en vacances chez elle, donc voilà.
Alors décrite comme ça paraît très très simple. Moi j'ai eu la chance de la déguster puisqu'elle était à la carte toute cette semaine. Comment techniquement on peut arriver à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça chez nous, puisque là c'est vrai que le rendu déjà visuellement c'est hyper sophistiqué, on a vraiment une assiette qui ressemble à un tableau. Ne serait-ce que de faire un jus de foin, alors ça paraît un peu antinomique de faire un jus avec du foin, comment ça marche?
On fait un jus de bœuf tout simplement, donc on prend les parures, toutes les chutes, on va dire, du bœuf, qu'on fait revenir avec un peu de beurre, un peu d'huile, toujours avec de l'huile pour éviter de brûler les sucs. On vient mouiller à l'eau tout simplement, et ça on laisse cuire une bonne heure et demie, deux heures tranquillement. On débarrasse, on enlève toutes les parures. Donc on le passe soit à la passette, nous on appelle ça un chinois, mais à la maison à la passette ça va très bien. Et ensuite, on fait réduire quasiment jusqu'à ce qu'il y ait très très peu de liquide, que les goûts se concentrent tout simplement. Et à partir de ce moment-là, nous on vient le fumer au foin, donc c'est-à-dire qu'on met dans un endroit clos, donc ça peut être n'importe quoi, une marmite avec un couvercle. On met un récipient donc avec le jus à l'intérieur. On vient allumer le foin, il commence à brûler, on ferme le couvercle, donc ça va créer de la fumée, ça va faire une ambiance fumée. Et ça vient fumer tout doucement, tranquillement, le jus qui est réduit. Et donc voilà.
Est-ce qu'au goût, vous pouvez nous décrire un petit peu ce plat?
C'est difficile à décrire un plat comme ça. Moi, c'est des saveurs que j'affectionne énormément. Donc, c'est un plat, je dirais que c'est la gourmandise. Parce qu'il y a ce côté champignon que j'aime beaucoup, girolle, la purée qui apporte de l'onctuosité. Enfin, cette onctuosité est renforcée par le siphon très aérien qui est dans l'esprit d'une purée de pommes de terre avec du fromage. Donc, vraiment, vraiment généreux. Et à côté, on a la viande qu'on aime bien avoir le dimanche ou un autre jour d'ailleurs, mais qui est juste servi avec ce jus réduit. Donc c'est la convivialité, c'est la générosité, c'est un peu un plat qui pourrait être un plat du dimanche qu'on apporte sur la table, bien sûr pas présenté de la même manière, mais c'était un peu dans cet esprit là qu'on a réfléchi à ce plat, quoi.
Alors vous disiez que c'était un hommage à votre grand-mère, ce plat, et un bel hommage du coup. Est-ce qu'il y a un souvenir précis qui vous vient, une image de ces moments passés avec votre grand-mère quand vous faites ce plat et quand vous le dégustez?
Des souvenirs, oui. Ben, il y a sa maison, son ancienne maison qui était dans le Cantal à Plot. Oui, j'ai plein de souvenirs à l'aider à cuisiner sur ce vieux, sur le poêle. Enfin, c'était la vieille gazinière encore à bois de mon arrière-grand-mère qu'on allumait quand on arrivait. Et lui, j'ai de très très bons souvenirs des plats qui mijotent là-dessus. Pas mal de choses, quoi. C'est vrai que des choses qu'on voit plus trop à l'heure actuelle, mais ça me ramène à ça. Après, bien sûr, il y a pas mal d'autres choses, hein. Elle adorait cuisiner, donc la partie sucrée, la partie pâtisserie, là en ce moment on a un chou à mignardise, un chou vanille, c'est elle aussi, parce que les chouquettes, elle adorait ça. Et c'est des petits clins d'œil comme ça. Une scène de vie assez marrante, c'était ma grand-mère et ma sœur qui s'étaient mises à faire des churros. C'était la première fois de leur vie qu'elles faisaient des churros. Et en fait, dans les churros, si on n'enlève pas l'air dans la pâte, quand on les passe en friteuse, quand on les frit, ça explose. J'ai le souvenir là de ma grand-mère et ma sœur qui courent derrière, se cacher derrière la fenêtre parce que les churros commençaient à exploser dans la cuisine. Il y avait de partout, heureusement il n'y a pas eu de blessés, mais c'est une petite anecdote marrante. Et moi j'étais là, je venais d'arriver, j'étais pas avec eux ce jour-là et j'avais bien rigolé. Heureusement, une fois de plus, il n'y avait pas eu de problème, mais voilà, ouais, c'est une petite anecdote. Ouais.
Alors là, aujourd'hui, on fait un clin d'œil du coup à cette grand-mère à travers un plat qui ressort sous une forme complètement gastronomique. Tous les produits sont, si je puis dire, sublimés. Ça, pour ça, il y a un parcours et une technicité très élevée. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à ce niveau en cuisine ?
Je pense que ça s'acquiert au fil des années. J'ai eu la chance de travailler dans de très très belles maisons, notamment Gilles Goujon, où j'y ai fait 5 ans. Ça a été une vraie école de la vie. Parce que, en plus d'apprendre la cuisine, j'ai énormément appris sur moi-même et sur les autres. Après, pour partir de la base de mon parcours, moi j'ai eu également la chance d'être très bien formé. On vient souvent taper sur les doigts des professeurs, mais moi j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs, notamment de cuisine, hein, que je remercie encore, qui est Robert Bertolino, qui est un meilleur ouvrier de France également d'ailleurs, qui m'a vraiment donné l'envie de continuer déjà dans cette voie-là. Je suis rentré au lycée hôtelier, j'étais quasi dimension de vouloir faire de la cuisine, mais pas forcément certain à 100%. Et il m'a conforté dans cette idée-là, et puis il m'a poussé à aller plus loin, à me surpasser, à faire des concours. J'ai fait pas mal de concours quand j'étais à l'école, puis à justement rentrer dans des belles maisons comme celle de Gilles Goujon, et puis voilà. Et c'est un peu lui qui a initié ce parcours gastronomique, on va dire.
Donc votre professeur, Robert Bartolino, donc ce meilleur ouvrier de France, ensuite ce contact avec Gilles Goujon qui est quand même triplement étoilé, c'est la plus haute distinction qu'on peut avoir pour un restaurant. Quel est l'enseignement le plus important pour vous dans ce que vous avez eu comme parcours ?
Il y en a beaucoup, il y a pas mal de choses qui me viennent en tête. Robert Bartolino, c'était la force tranquille, donc c'était, voilà, il y a peut-être une montagne de travail, mais... Voilà, on va le prendre calmement, posément, et on va aller au bout. Donc c'est ne jamais rien lâcher, même si c'est un peu similaire à Gilles Goujon. Et après, Gilles Goujon, c'était surtout vraiment privilégier le goût, le détail. Toujours dépasser ses limites, en fait. Les 5 années que j'ai fait chez lui, on était poussé dans nos retranchements à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on se dépasse, en fait, qu'on se surpasse et qu'on arrive à faire des choses... qu'on ne pensait pas forcément arriver à faire et qui sortent un peu de l'ordinaire et qui deviennent un peu extraordinaires, mais c'est ça.
Gilles Goujon, première.
Vous allez bien, chef ?
Jusque-là, ça va. La cuisine m'a tout apporté, moi. C'est tout pour moi. Si j'avais pas eu la cuisine, je ne serais pas là où j'en suis. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, d'ailleurs. La cuisine, c'est ce qui m'a sauvé.
On est toujours sur ce niveau gastronomique et on travaille beaucoup avec des produits très locaux. Et il y a des légumes qui font à peine 150 mètres pour arriver dans les assiettes des clients ici. Il y a du miel qui est local aussi. Bien sûr, le pélardon, l'oignon doux. On retrouve un peu tous ces produits très caractéristiques des Cévennes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits ?
C'est de très très beaux produits. C'est vrai que en arrivant ici, je pensais pas avoir des producteurs, des éleveurs aussi proches. Comme vous le disiez, il y a des produits qui font à peine 150 mètres. On a la chance d'avoir quasi la totalité de nos légumes et de nos fruits qui sont de Mandagou. On a 3 maraîchers sur Mandagou qui nous livrent. Et en plus, on a la chance de pouvoir être livrés tous les jours. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire en termes de fraîcheur, en termes de tout. De qualité de produits. Donc, vous savez, en arrivant dans les Cévennes, qu'il y avait une multitude de produits et de qualité, mais de là à les avoir aussi proches, que tous ces éleveurs et producteurs soient si disponibles, j'ai trouvé ça extraordinaire. De toute façon, c'était un peu le but en ouvrant ici, enfin en réouvrant, parce qu'une fois de plus, c'est une réouverture, c'était de mettre en avant le terroir, clairement.
J'entends aussi que vous essayez de surprendre les clients. Alors moi, la première fois que je suis venu ici, je me souviens qu'on m'a servi sans que je m'y attende du tout, en fait, parce que c'était même pas marqué, je crois, sur la carte, un cappuccino. En fait, c'était un cappuccino qui avait un peu ce côté torréfié, le goût du café. Mais en fait, c'était de l'oignon doux avec une mousse dessus comme sur un cappuccino, sauf que la mousse, c'était du pélardon. Là, c'est de la surprise. Donc là, on déclenche quelque chose au niveau de l'émotion aussi du client. Toutes ces choses-là, elles vous viennent comment ? Donc vous disiez en contemplant le paysage des Cévennes, c'est ça, en regardant autour de vous ?
Oui, alors pour la petite histoire, là, ce cappuccino, c'est vrai que c'est un plat, c'est une mise en bouche qui plaît beaucoup. D'ailleurs, je voulais la changer et puis j'arrive pas parce que à chaque fois, on a des très très bons retours là-dessus. Mais ouais, maintenant je me dis ouais, ce cappuccino c'est vraiment un concentré de Cévennes, quoi. On rentre dedans directement, on est dans le vif du sujet. Des fois je me perds un peu dans mes idées, et je crois que c'était en plus c'était lors d'une balade, parce que j'aime beaucoup en fait dès que je fais quelque chose d'un peu de machinal, je me mets à réfléchir sur des plats, et donc marcher forcément on a le temps surtout quand on est tout seul de réfléchir, et c'était lors d'une balade, je me suis dit en plus on l'a appelé en commençant par la fin, et donc en commençant par la fin il y avait le jeu de mots avec la fin F-I-N et la fin F-A-I-M donc il y avait le double jeu de mots, et je me suis dit en commençant par la fin cappuccino, les gens, machin, et puis j'avais vraiment l'idée de mettre en avant, ça c'était clair, pour la mise en bouche, vraiment des marqueurs des Cévennes, et donc c'est venu un peu comme ça, on l'a travaillé, on a fait un ou deux essais, et puis on s'est dit ça match très très bien. j'aime bien me poser dans la salle de restaurant, même si j'ai pas trop eu l'occasion de le faire ces derniers temps, mais me poser dans la salle de restaurant, regarder la vue, et c'est vrai que bah, l'inspiration, elle vient un peu toute seule grâce à ça, se perdre dans ses idées, se noter trois petits bouts de trucs sur un papier, et puis voilà, et puis petit à petit créer, imaginer, mais c'est pas uniquement pour des plats, hein, mais imaginer des manières de servir, imaginer des manières d'amener les choses, de faire évoluer le service en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que là, on a ouvert, tout le monde est enjoué et c'est bien, mais c'est vrai que les gens reviennent et on en est très content, mais du coup, il faut qu'ils voient toujours cette petite évolution, ce petit truc en plus qui fait que ben, ils vont revenir la fois d'après parce qu'ils vont se dire ah il y avait ça en plus, ah ben voilà. Donc oui, il faut jamais, là on en revient à Gilles Goujon, faut jamais rester sur ses acquis et toujours chercher à aller plus loin, à peaufiner le détail, et voilà.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Oui, Paris. Juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil coulerait dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel, te ferait le monde beau. Le monde beau. Changer de peau. Si tu laisses le vent emporter tes tourments en chemin, que renaisse le feu qui brûlait dans tes yeux un matin. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
Vous pouvez me raconter un peu comment vous êtes arrivé dans les Cévennes? Alors je ne vous compare pas à un produit, mais... Comment ça s'est passé, ce parcours?
Ça s'est passé un peu par hasard. J'étais venu une ou deux fois, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé. Puis en fait, c'est un ami avec qui j'ai travaillé, d'ailleurs chez Gilles Goujon, et puis par la suite au Crocodile à Strasbourg, qui est Amaury Barbado, qui est du Vigan, et qui m'a dit, écoute, donc je rentrais de Corse l'an dernier, il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a un projet qui se crée ici, enfin, il m'a pas dit, il m'avait pas dit la Bourrie, je sais plus, mais il m'avait dit dans les Cévennes, à côté de chez moi, il m'a dit, je descends voir le projet, je descends de Strasbourg, est-ce que tu veux venir avec moi, voilà, ça t'engage à rien, voilà. Et moi, je suis arrivé ici, c'est vrai que je suis un peu tombé amoureux de l'endroit, alors c'était pas du tout comme ça, il y a beaucoup de monde qui connaissait la Bourrie avant, j'ai rencontré donc les propriétaires actuels, Isabelle, Jean-Philippe Pelletier, et puis ça a bien accroché. On a commencé à réfléchir à un projet. Moi, c'est vrai que ayant fait que de la gastronomie, je voulais pas partir dans quelque chose de différent, parce que pas que je n'aime pas ça, bien au contraire, mais je sais enfin, malheureusement pas faire autre chose d'autre. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Enfin, moi, vous me mettez dans une brasserie, je sais pas faire. Hein. C'est un métier, c'est un autre métier. Hein. C'est pour ça que tous les métiers sont bien. Mais du coup, je suis arrivé là. Ils avaient pour projet de reprendre un peu comme c'était à l'époque. Et bon, bien sûr, en faisant un coup de propre, un coup de neuf, voilà. Et puis finalement, avec Amaury et ensemble, on a réfléchi à quelque chose d'un peu plus gastronomique, et puis on est arrivé à ce qu'on en est là aujourd'hui. C'est un très bel établissement avec une très belle cuisine. Ils nous ont fourni quand même des très beaux moyens, et puis voilà quoi. Et on est en train de faire une cuisine gastronomique qui a l'air de plaire, donc c'est le principal. Je pense que à part le responsable du chantier et moi, il n'y avait personne qui croyait à la date d'ouverture du 29 juin. Je pense que vous pouvez demander à tous les mandragounais, personne n'y croyait. À partir du moment où on a fixé cette date, on a tout donné pour arriver à ouvrir à temps. Puis encore, hein, encore là, on est en période de rodage. Toujours des petits couacs qui font que c'est marrant. Quoi.
Alors comme vous dites, vous êtes en période de rodage, mais je précise quand même que quand on est client, quand on est servi, on a une impression de fluidité, on a une impression de calme. C'est agréable, on contemple la vue. On a l'impression que tout tourne déjà parfaitement depuis, on pourrait presque dire, des années. Donc ça, c'est quand même un objectif qui était essentiel pour vous, et visiblement, il est atteint. Donc ça montre aussi l'énergie que vous avez pu mettre dans ce projet, quoi.
Tout à fait. Il y a une très très belle énergie, une très très belle dynamique. Une fois de plus, je me rends pas compte parce que j'ai pas le recul que j'aurai sûrement dans 2-3 mois. Mais je suis tellement fier de ce qu'on a fait, et les équipes sont extraordinaires. Enfin voilà, on a fait le pari d'ouvrir un restaurant gastronomique avec 3 petits gars en cuisine qui donnent tout au quotidien et qui sont à peine quasi sortis de l'école. Ils ont 2 ans de métier. Mon pâtissier est boulanger à la base. Il a jamais fait de pâtisserie de sa vie. Manon, notre responsable de salle, c'est son premier poste de responsable également. Tout le monde a pris les choses à bras le cœur et tout le monde s'est donné à 2000%, et je pense que c'est aussi et surtout grâce à tout ça que ça fonctionne, parce qu'il y a une belle dynamique et parce que tous les acteurs se surpassent au quotidien pour faire que l'expérience soit la plus belle possible. Breathe me in, breathe me out. I don't...
like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
On on est parti d'une recette très personnelle, d'une recette qui vous liait à votre grand-mère qui est décédée il y a peu de temps. On a parlé aussi d'un parcours qui vous a demandé beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, avec j'imagine aussi la fatigue qu'il peut y avoir quand on fait des services le midi, le soir, mais du coup on se lève tôt, on se couche tard, et aussi ce projet où effectivement il y a en plus le côté chantier qui vient se greffer à tout ça, de l'énergie. Vous avez parlé du cœur aussi, et je fais bien sûr le lien avec le titre de l'émission, Cuisiner avec amour. Pour vous, c'est quoi la place de l'amour en cuisine? C'est une question que je pose systématiquement. J'ai parfois des différences dans les réponses. Et c'est toujours très intéressant. C'est quoi, donc, pour vous, le rôle de l'amour dans tout ça?
Ah ben, l'amour en cuisine, c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Si on ne cuisine pas avec amour, je pense que ça ne sert à rien de cuisiner. Ça, ce n'est pas de moi. Hein. Il y a pas mal de chefs, de grands chefs qui l'ont dit et qui le disent encore. Alors, on fait un métier, je pense qu'il faut qu'il soit de passion. Si on n'est pas passionné dans ce métier... soit on perd vite pied, soit ça devient vite compliqué. Donc oui, l'amour, il est partout. Il faut qu'on ait l'amour du client, il faut qu'on ait l'amour du produit, il faut qu'on ait l'amour des autres, de ses équipes. Et je pense que c'est un ensemble, une corrélation de tout ça qui fait qu'on arrive à retranscrire ce qu'on souhaite dans les assiettes et qu'il y a de l'émotion par la suite auprès du client et que voilà, non, l'amour en cuisine, c'est important. C'est ce qu'il y a de plus important. Si on se lève le matin, si un jour je me lève et que j'ai plus l'amour que j'ai de faire les choses bien, que mes équipes soient contentes, que nos clients soient contents, je pense que j'arrêterai le métier parce que c'est vraiment le fil conducteur du métier. Ouais.
Nous qui vous écoutons, on n'est pas forcément des professionnels de la cuisine, on n'a pas appris avec des chefs triplement étoilés comme vous. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour bien cuisiner chez soi? Comment on fait? C'est quoi la recette? C'est quoi le secret?
La recette, c'est cuisiner avec amour. Non, c'est ça, c'est prendre le temps. C'est souvent, enfin, et encore plus à l'heure actuelle, on est toujours pressé par tout ce qu'on a à faire dans la vie. Et en fait, là aussi, je vais reprendre une phrase de mes mentors, c'est la cuisine, c'est du temps. Et en fait, il faut tout simplement prendre le temps de faire les choses et laisser le temps aux cuissons, s'il faut du repos, au repos. Et en prenant le temps de faire les choses, en général, on fait les choses bien.
Merci Florian Choucroune.
Merci à vous.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.